France Inter.
Journal Victor Fourchet, bonjour.
Bonjour Ali et bonjour à tous. À la une ce matin, à partir d'aujourd'hui, la pêche française ne suffit plus à notre consommation nationale. Une ONG l'appelle le Fish Dependence Day. Quelles conséquences dans nos assiettes pour ce jour de la dépendance aux poissons importés? On vous explique tout dès le début de ce journal. Dans l'actualité également, l'Ukraine ne peut plus attendre l'aide des États-Unis, dit Volodymyr Zelensky. Ultime appel, dernière pression sur le Congrès américain qui doit voter pour ou contre une enveloppe de 61 milliards de dollars à Kiev cet après-midi. Un message vidéo personnalisé à chacun des centaines de millions d'électeurs indiens. Ce n'est pas un exploit du Premier ministre Narendra Modi, c'est grâce à l'intelligence artificielle, vous l'entendrez. À suivre aussi une jeune Ivoirienne handicapée mentale menacée d'expulsion dans l'Ain, et puis un authentique tableau de Raphaël réapparu comme par miracle et exposé dans le sud de la France dès aujourd'hui.
Et au programme à 7h50, rapprocher les Européens, faire vivre l'Europe par la culture. On en parle avec Lola Lafont, elle est écrivaine féministe et elle a participé à un hors-série du magazine Zadig, Rêver l'Europe.
France Inter.
Samedi 20 avril, jour de la dépendance aux poissons importés, même pas la moitié de l'année, et la France a déjà consommé tous les poissons que ses eaux peuvent fournir en un an. C'est le constat alarmant d'une ONG ASC France qui se base sur les chiffres de l'établissement public France Agrimaire avec cette question. Mais qu'avons-nous alors dans nos assiettes? Bonjour Sophie Becherel.
Bonjour.
Parce qu'on peut toujours acheter coquillages et poissons, mais sont-ils produits en respectant l'environnement ou les droits humains? Pour le savoir, l'ONG a lancé son label, Sophie.
La silhouette blanche d'un poisson sur fond bleu Caraïbe, c'est le logo du label ASC. Derrière ce label, il y a des critères de protection de l'environnement.
Une ferme qui est certifiée ASC, ça veut dire qu'elle a fait attention à la santé et au bien-être des poissons.
Camille Civelle, directrice du label en France.
Qu'elle a restreint son utilisation d'antibiotiques, par exemple, qu'il y a une bonne qualité de l'eau, qu'il y a une protection des habitats sensibles, comme la mangrove ou les herbiers de Posidonie, par exemple, qu'elle utilise une alimentation qui est durable, et à qu'elle fait attention aux droits humains en protégeant les droits des salariés et des communautés autour des fermes.
Un cahier des charges strict donc, qui explique que seules 2000 fermes aquacoles dans le monde soient labellisées. C'est 3% des élevages marins.
Et en France, justement Sophie, y a-t-il des fermes aquacoles labellisées?
Seulement 4, des producteurs d'huîtres essentiellement. Ce que nous consommons le plus en France, c'est le saumon et la crevette, deux espèces que nous ne produisons pas et qui sont souvent élevées, comme d'ailleurs un tiers des produits de la mer que nous mangeons dans notre pays. Sans label, impossible de savoir ce qui est vertueux, d'où l'intérêt d'ASC, confirme le député écologiste de Gironde Nicolas Thierry, particulièrement sensible à la question puisqu'une ferme intensive de saumon cherche à s'implanter dans son département.
Ça permet aux consommateurs de faire des choix éclairés. Si on arrive à bien communiquer sur le label, ça permet aussi de sensibiliser sur les modes d'élevage. On le voit notamment aujourd'hui sur la viande, sur les légumes, etc. Ça marche très bien. En tout cas, il fait le choix en conscience. Et ça, c'est extrêmement important.
Une aquaculture labellisée, c'est aussi des droits de formation pour les salariés du secteur, la lutte contre la pénibilité et une politique de réduction des déchets.
Merci Sophie Becherel. Et pour en savoir plus sur ce Fish Dependence Day, je vous conseille l'article qui lui est dédié sur franceinter.fr.
Dans la suite de l'actualité à l'étranger, les États-Unis l'assurent, ils n'ont rien à voir avec une frappe cette nuit sur l'Irak.
Et sur une base militaire qui abrite des soldats de l'armée irakienne, mais aussi des paramilitaires pro-iraniens. Elle intervient au lendemain d'une autre frappe, cette fois-ci en Iran, mais toujours dans une base militaire. Téhéran n'accuse pas Israël. Tel Aviv ne fait aucun commentaire alors que le Congrès américain doit voter pour approuver ou non une aide de 13 milliards de dollars à Israël. Un vote crucial du Congrès américain, puisque ce texte intègre aussi une enveloppe colossale de 61 milliards de dollars à l'Ukraine. Ça fait des mois que démocrates et républicains s'opposent sur cette aide. Des mois aussi que Kiev réclame ce soutien vital, selon elle. Comme le rappelait hier le président ukrainien Volodymyr Zelensky, il s'adressait au ministre de la Défense de l'OTAN.
Nous attendons cette décision du Congrès américain qui est vitale pour nous. Cette année, nous ne pouvons plus attendre que des décisions soient prises. Tant que la Russie a l'avantage dans les airs et peut s'appuyer sur la terreur menée par les drones et les roquettes, nos capacités au sol sont malheureusement limitées. Et notre ciel doit redevenir sûr. Et cela dépend entièrement de votre choix. À vous de choisir si la vie a la même valeur partout, si vous avez une attitude égale envers tous les partenaires, de choisir si nous sommes effectivement alliés.
Et le soutien des États-Unis à l'Ukraine, c'est un des grands thèmes de la présidentielle américaine. Alors qu'en Inde, ce sont les élections législatives qui se sont lancées hier avec un nouvel outil pour faire campagne. Le Premier ministre Modi utilise l'intelligence artificielle pour parler personnellement ou presque auprès d'un milliard d'Indiens appelés aux urnes. Le candidat à sa réélection avec son parti, le BJP, a notamment choisi d'avoir recours au deepfake Aurore Richard, un trucage vidéo réalisé avec l'IA.
Des électeurs indiens ont reçu une vidéo sur leur messagerie WhatsApp dans laquelle le Premier ministre les salue par leur prénom et dans leur dialecte. C'était le visage et la voix de Narendra Modi, mais ce n'était pas lui, seulement un avatar créé avec l'IA. Et cette technique a été utilisée par d'autres figures de son parti, précise Dorian Dreuil, politologue.
C'est peut-être la première utilisation à échelle grandeur nature lors d'un scrutin de l'intelligence artificielle par des candidats.
La population indienne étant ultra connectée, l'objectif affiché est de toucher un grand nombre d'électeurs. Mais cette technologie peut aussi nuire au Premier ministre, car elle peut servir à diffuser de fausses informations, précise le politologue.
La désinformation amène à l'autocratisation. Et dans les logiques de désinformation, l'intelligence artificielle peut jouer un rôle d'accélérateur, un rôle démultiplicateur, notamment du fait des bulles algorithmiques et de la viralité des réseaux sociaux. Donc c'est de nature à effectivement être un danger pour le bon déroulement d'un scrutin et à terme pour la fragilité d'un système démocratique.
D'après Dorian Dreuil, ce questionnement ne concerne pas seulement l'Inde, dans la mesure où près de la moitié de la planète vote cette année.
Et un scrutin qui durera jusqu'au 1er juin prochain. Il est 7h36 sur France Inter. On en vient à cette histoire qui indigne des éducateurs d'un institut spécialisé de l'Ain. Une jeune femme ivoirienne handicapée mentale est menacée d'expulsion. Et sitôt la décision de la préfecture prise, elle a été renvoyée de l'établissement. Elle y était suivie depuis 4 ans. C'est un éducateur spécialisé qui tire ce matin la sonnette d'alarme et appelle à un sursaut à Lyon, Mathilde Imberti.
La jeune Marilyn a été placée mineure à l'IME, Institut Médico-Éducatif de Perona, il y a 4 ans. Aujourd'hui âgée de plus de 20 ans, elle sort du cadre de la prise en charge des enfants handicapés pour entrer dans celui des adultes. Et la préfecture de l'Ain, faute de papiers en règle, a émis à son encontre une obligation de quitter le territoire. Tout est allé très vite, déplore Vincent Guérin, l'un de ses éducateurs spécialisés.
Quand je suis arrivé le lundi 18 mars, mes collègues me font part qu'il y a une place qui s'est libérée, celle de Marilyn. Il n'y a pas de projet de sortie pour elle, on n'a rien du tout. Et là, on m'explique qu'il y a eu une OQTF et que du coup, vendredi 15, elle a été dégagée de l'établissement. C'est une jeune fille qui est porteuse d'un handicap mental moyen, qui a une assez faible autonomie. Et là, du jour au lendemain, j'ai trouvé ça très violent qu'il n'y ait aucune mobilisation, qu'on puisse comme ça appliquer une telle mesure. Là, j'avoue que moi, en tant que professionnel du médico-social, ça m'a absolument sidéré.
L'éducateur interpelle alors son syndicat Sud Santé Sociaux qui s'empare de l'affaire et publie un communiqué dénonçant la menace d'expulsion. L'association qui gère l'institut, tout en se disant scandalisée par la situation, déclare s'être simplement mise en conformité avec la loi en renvoyant la jeune fille dès lors que la préfecture avait demandé son éloignement du territoire. L'expulsion de la jeune ivoirienne n'est pas encore effective. L'association qui s'occupe de sa tutelle a introduit un recours contre la décision de la préfecture de l'Ain. Lyon, Mathilde Imberti, France Inter.
Et dans l'actualité également, la piste du guet-apens renforcée à Grande-Synthe dans le Nord. Avec cette annonce, les 100 suspectés de l'agression d'un jeune homme ont été mis en examen pour assassinat. Ils sont en détention provisoire devant les enquêteurs. Ils ont assuré s'être fait passer pour une jeune mineure via un site de rencontre pour piéger la victime. Après 5 ans d'enquête, le procès de l'effondrement de la rue d'Aubagne aura bien lieu cet automne à Marseille. L'ordonnance de renvoi en correctionnel a été signée par les juges. À l'intérieur, une longue description de manquements qui ont mené au drame et à la mort de 8 locataires en 2018. Dans le viseur de la justice, le syndic de copropriété, la société Marseille Habitat, un architecte expert ainsi que l'adjoint au maire en charge des risques urbains. Ils seront jugés pour homicide et blessures involontaires. Accusé Jean-Philippe Degnaud d'avoir fait passer les économies avant la sécurité.
Absence de travaux, absence d'entretien, absence de diagnostic sérieux, un laisser-aller total en toute connaissance de cause. Les magistrats instructeurs se disent par exemple stupéfaits par l'état de ruine, écrivent-ils, dans lequel Marseille Habitat a abandonné l'immeuble du numéro 63. Et l'argent est au cœur de toutes ces négligences. Il fallait gagner du temps pour ne pas réaliser des travaux dont certains auraient dû être engagés 10 ans auparavant. Pour l'immeuble du numéro 65, par exemple, les juges désignent un syndicat dynamique de copropriété trop soucieux de ses deniers. Quant à l'adjoint au maire en charge de l'habitat indigne, il n'a jamais engagé les 4 millions d'euros de budget qui auraient dû être consacrés aux travaux urgents, sans que l'on sache d'ailleurs où est passé cet argent, soulignent au passage les magistrats. Plus généralement, les juges relèvent que l'état du bâti ancien du centre de Marseille est tellement dégradé que personne ne s'imaginait que les 3 immeubles de la rue d'Aubagne allaient s'effondrer, et de conclure, quand les habitudes endorment la vigilance, elles conduisent à l'incurie et au drame.
Jean-Philippe Degnaud pour France Inter.
Et puis Victor, est-ce un coup de chance ou en tout cas un très bon coup d'un collectionneur français? Un authentique tableau de Raphaël est exposé à partir d'aujourd'hui dans le sud de la France.
À la basilique Marie-Madeleine de Saint-Maximin, la Sainte-Baume. Un tableau représentant Marie-Madeleine justement, disparue pendant plus de 5 siècles, retrouvée à Londres et rachetée par des Français à peine 34 000 euros, à peine, parce que c'était avant qu'il soit authentifié comme un véritable Raphaël. Ces collectionneurs, ils ont décidé de le dévoiler pour la première fois au public dans la basilique où reposent les reliques de Marie-Madeleine. Le reportage Sophie Glotin.
L'émotion et le silence gagnent la basilique quand le chef-d'œuvre de Raphaël est sorti de son écrin.
Voilà le tableau.
Cette huile sur panneau de 46 cm sur 33 représente Marie-Madeleine, un portrait en clair-obscur tel la Joconde, acheté dans une galerie londonienne par un groupe d'amis, dont Anna.
On a eu un vrai coup de cœur, on a vu la qualité de l'œuvre, sans savoir ce que c'était. Hein. Et après de nombreuses investigations scientifiques, historiques, il s'avère que c'est une œuvre de Raphaël qui était perdue.
Enfin, en 1505, les historiens perdent la trace du tableau en 1631 en Italie, avant donc de réapparaître comme par miracle. Et cette première exposition grand public dans la basilique Marie-Madeleine de Saint-Maximin.
Là, on est quand même dans le troisième tombeau de la Crainte Sortée de Marie-Madeleine. Le tableau représente Marie-Madeleine, c'était sa place. Et donc c'est magnifique, voilà.
La propriétaire est très émue, comme le recteur de la basilique, le père Florian Racine.
On a l'impression que Marie-Madeleine est vraiment là, vivant dans ce tableau. Ah ben c'est une émotion, on est saisi par cette présence et puis on est très heureux de la voir ici.
Le trésor de Raphaël, la Sainte Marie-Madeleine, sera visible jusqu'au 20 mai. L'entrée est fixée à 3 euros pour permettre de financer les travaux de rénovation de la basilique.
Ouais, 3 euros, mais c'est gratuit que pour aujourd'hui, il faut le savoir.
Merci, c'était le journal de Victor Pourchet.